Marché action, la guerre commerciale est-elle enfin intégrée dans les cours? Indice S&P 500, le point bas est-il fait ou est-il proche de l'être pour envisager un rebond d'ici la fin du printemps? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. La guerre commerciale frappe fort. La guerre commerciale est, depuis le début de l'année, mois après mois, le thème d'inquiétude fondamentale dominant pour la haute finance, avec un S&P 500 qui a perdu plus de 10% depuis son record historique établi au premier trimestre de l'année 2025. D'ailleurs, premier trimestre de l'année 2025 catastrophique pour les actifs risqués en bourse, le marché actions, les actions US, le marché des crypto-monnaies. L'espoir est-il encore permis? Peut-on envisager un rebond et bien terminer l'année? Moi, je le pense, oui. Et donc, je vais argumenter dans ce sens. On va parler du court terme, du moyen terme, du long terme. Mais d'abord, effectivement, vous savez, cette guerre commerciale, on va faire plein de choses dans cette vidéo. Donnez-moi le temps, je fais une intro. Cette guerre commerciale, elle n'est pas nouvelle. Elle a déjà eu lieu lors du premier mandat de Donald Trump. Entre 2017 et 2019, à l'époque centrée contre la Chine. Et cela avait abouti. Mais on n'en parlait pas tellement parce que la crise sanitaire est arrivée. Mais cela avait abouti en décembre 2019 à l'accord commercial Phase One Trade Deal. Phase One Trade Deal. Bon, c'est tombé aux oubliettes. La crise sanitaire est arrivée 2 mois plus tard. Les tarifs réciproques sont là. Sont connus, tous les détails sont connus, les pays, les blocs commerciaux qui sont visés, les secteurs, pas les secteurs. Vous savez, maintenant, place, ça a déjà commencé, hein. Mais en perspective maintenant, les accords commerciaux. La lueur d'espoir, si vous en cherchez une à laquelle vous raccrochez, consiste en l'établissement d'accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Union européenne, entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, bref. Les principaux partenaires commerciaux des États-Unis qui eux aussi devront faire un effort. Il ne faut pas tomber dans la surenchère des droits de douane, il ne faut pas tomber dans l'affrontement à outrance, dans la surenchère. C'est la seule façon d'envisager la stabilisation des actifs risqués en bourse. Alors, le S&P 500 a-t-il fait son point bas ou est-il proche de le faire? On va faire plein de choses. Déjà, première partie, rapide topo sur ce que vous avez bien sûr pu vous informer de votre côté dans la presse financière. État des lieux, au moment où j'enregistre cette vidéo, des tarifs douaniers dits réciproques. Alors, même si ce n'est pas tellement dans la super réciprocité bien égalitaire, mais faisons un point. Et ce sujet reste majeur. Je vais vous montrer quelques infographies intéressantes. Quelques sondages au sein de la haute finance qui montrent que ça reste le thème, c'est le thème d'inquiétude. Ça a dépassé la Fed, l'inflation, l'emploi. Non, c'est la guerre commerciale. Vous savez, le marché actions, c'est les entreprises. À la question de savoir est-ce que le S&P 500 a fait son point bas, c'est est-ce que les actions qui le composent ont fait leur point bas. Les entreprises, pour qu'elles continuent d'investir, d'embaucher, de croître, il faut qu'elles aient confiance dans l'avenir, de la visibilité. À partir de cette seconde semaine d'avril commencent les résultats du premier trimestre. Et on commence cette semaine d'ailleurs par le secteur financier américain. Eh bien, toutes ces entreprises, à partir de cette semaine et pendant plusieurs semaines, vont dévoiler leurs résultats du premier trimestre et leurs perspectives. Si elles se sentent dans l'incertitude, elles peuvent couper des investissements, des embauches. Et c'est là où on peut tomber en récession. Il faut leur redonner un cadre de visibilité. La meilleure des visibilités, ce ne sont pas des droits de douane bruts comme ça, de décoffrage imposés ci et là, et de manière réciproque. De la visibilité, c'est aboutir à un accord commercial. Un accord, c'est écrit, c'est signé, c'est fixé, on peut s'y tenir. C'est vraiment l'enjeu des prochaines semaines sur le plan de ce commerce international. Donc ces résultats du premier trimestre, vous allez voir que j'ai quelques données intéressantes à vous montrer. Les perspectives de profit restent encore optimistes, mais là, tout va être revu avec les résultats du T1. Certains nombres d'entreprises, quand même, commencent à de plus en plus à être nombreuses à avoir une anticipation négative, mais ça reste encore minoritaire. Troisième partie, lueur d'espoir. Le rebond massif, en grande partie d'ailleurs avec le drop du dollar américain face à un panier de devises. De la liquidité mondiale, je vous en parle depuis 3 semaines. L'agrégation des offres monétaires mondiales M2 des différents États, qui fait un nouveau record historique. Cette liquidité viendra bientôt se déverser sur les actifs risqués. Elle arrivera en soutien, en amortisseur, au minimum pour un bear market rally. Je vous refais un gros point complet. Où en est-elle? Quand est-ce qu'elle peut arriver, permettre un rebond? Troisième partie de cette vidéo donc. Quatrième partie, cette semaine, d'entrée de jeu, on attaque. Jeudi 10 avril, l'inflation US selon le CPI, alors que la désinflation US a repris. Elle a repris, s'est stabilisée. Bon. Y a-t-il un risque là d'envoler des prix immédiatement? Bon, là, le CPI, publié ce 10 avril, qui porte sur mars, ne va pas permettre de le savoir, mais on va prendre les indicateurs d'inflation en temps réel. Vous allez voir, il y a encore de quoi être optimiste sur l'inflation. Même la Fed dit d'ailleurs que si un rebond de l'inflation avec les droits de douane, ce serait transitoire. L'inflation structurelle, elle continue de baisser. Alors, est-ce que ce CPI du 10 avril peut nous apporter du baume au cœur, un peu d'air? C'est ce que nous allons voir. Et puis, bah, la question de la vidéo, c'est quand même, le S&P 500 a-t-il fait son point bas ou est-il proche de l'être? Donc, je vous refais un topo complet sur l'analyse technique du S&P 500 sur tous les horizons de temps. Nous allons reprendre tous les indicateurs de sentiment, le positionnement institutionnel, la part du cash dans les portefeuilles, l'approche quantitative pour déterminer si le S&P 500 en fait a démarré un bear market ou est-ce qu'il en fait ne fait qu'une correction dans un marché dont la tendance de fond resterait haussière. Les amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gam. Les amis, on attaque. Est-ce que le marché action a fait son point bas ou est-il proche de le faire? C'est le sujet que nous abordons dans cette nouvelle édition du Top Gam. C'est parti. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction. Je l'affiche à nouveau ici. À l'écrit pour ceux qui veulent prendre le temps. Prendre le temps de le lire 5 parties et nous attaquons directement la première partie. Guerre commerciale, le nouveau facteur fondamental, dominant. Oui, alors les thèmes d'inquiétude fondamentale ne manquent pas pour les actifs risqués en bourse qui ont connu un premier trimestre catastrophique. Le S&P 500, le Nasdaq, le marché des crypto-monnaies, au contraire l'or qui a été leader au premier trimestre. Vous avez en fait un certain nombre de thèmes d'inquiétude fondamentale et qui sont bien, comment dire, reportés par cette étude de la Bank of America, la BofA. Et je trouvais ça intéressant de voir, donc mois après mois, donc janvier, février, mars, l'évolution du poids relatif des différents thèmes d'inquiétude. Et on peut voir que l'aspect géopolitique a été complètement rétrogradé, alors que mois après mois, eh bien, le fait que cette guerre commerciale dit des tarifs réciproques, entre guillemets, car nous sommes loin d'une vraie réciprocité, bon, est devenu le facteur fondamental dominant. Pourquoi je commence par ça? Parce que déjà j'ai envie. Non, pourquoi je commence par ça? Parce que la question est de savoir, peut-on avoir au minimum, pour certains, un bear market rally? Pour d'autres, dont je fais partie, la reprise de la tendance haussière de fond pour terminer l'année en haut et avoir plutôt un bear market en 2026, ça c'est mon scénario, eh bien il faut neutraliser les thèmes d'inquiétude fondamentale. Les thèmes d'inquiétude fondamentale, parce que j'ai accordé fondamentale à l'inquiétude, l'inquiétude étant féminin. Vous avez la réponse sous les yeux. La moindre ouverture vers des perspectives d'un accord commercial. Chine, États-Unis, États-Unis, UE. Oui, là, nous sommes dans le dur, mais la moindre petite ouverture, le fait que nous, que le marché, que les départements du commerce s'engagent sur une voie de la négociation. Voilà qui permettrait un rebond. Car c'est même plus la Fed qui inquiète le marché. Oh, la Fed baissera ses taux d'ici la fin d'année, vous verrez. La désinflation, elle est là. Même s'il y a un pump d'inflation mensuelle provisoire, la désinflation structurelle est là. rassurer le marché sur la guerre commerciale, rend crédible un scénario de rebond technique ce printemps. Si vous voulez, cette guerre commerciale, les gens font semblant de croire qu'elle est nouvelle. Quelle erreur! Je vous laisse observer le graphique qui est sous vos yeux. Trump a déjà été président des États-Unis. L'ami Trump a déjà été président des États-Unis. Et lors de son premier mandat, il a mené à l'époque une guerre commerciale féroce contre la Chine. D'ailleurs, qui à l'époque avait créé des phases de volatilité, de correction, mais in fine, la tendance de fond était restée haussière. Voilà le scénario que j'ai. Une guerre commerciale qui, dans sa phase la plus dure, crée des chocs, des phases de baisse, mais dès lors qu'on entrevoit la négociation, permet une reprise. À l'époque, cela avait abouti par l'accord Phase 1 Trade Deal de décembre 2019. Et me direz-vous, qu'est-ce que c'est que cette énorme chute ici? Ce fut à l'époque la crise sanitaire, qui est arrivée 2 mois après cet accord commercial. Donc, les tarifs réciproques, vous avez toutes les informations dans la presse, je vous ai remis ça aussi en introduction. Si vous voulez, pour envisager un rebond de printemps du marché action, non mais comparez simplement. Lors du premier mandat de Trump, la guerre commerciale avait été à outrance contre la Chine. Vous avez ici un indice de Bloomberg Economics, l'indice de la peur lié à cette guerre commerciale. Regardez, cet indice de la peur a atteint un record historique. Il est le double de ce que fut la peur exprimée lors de la première guerre commerciale du premier mandat de Donald Trump. Donc comprenez bien que tout est là, tout est là. Si des perspectives d'accords commerciaux s'ouvrent, le marché pourra entrer dans une phase de rebond. Les entreprises retrouveront de la visibilité. Elles pourront réinvestir en sécurité, maintenir l'emploi. Et d'ailleurs, pour envisager un rebond du S&P 500, toutes n'est question que d'entreprises, car ce sont bien ces entreprises qui composent l'indice S&P 500. Alors justement, petite parenthèse rapide, cette seconde semaine du mois d'avril voit donc le point de départ des résultats du premier trimestre. Pour envisager un rebond de printemps du S&P 500, il est impératif que ces entreprises communiquent des perspectives de confiance. Déjà, elles vont donner leurs résultats du T1, on verra si des incertitudes les ont impactées. A priori, oui, hein, c'est ce que montrent certains graphiques. Mais en particulier, on voit qu'au-dessus de la moyenne, eh bien, des perspectives négatives dans beaucoup des secteurs sur ce premier trimestre 2025, au-dessus de la moyenne à 5 ans. C'est ce que nous rapporte cet histogramme de FactSet. Alors justement, vous avez cette semaine le début des résultats du premier trimestre avec notamment toutes les valeurs financières. Donc les banques, ça c'est important, comment les banques se projettent, où en sont-elles, est-ce qu'elles voient des défauts, des choses? Bon, ça va être un bon baromètre de la suite des événements, ces résultats du premier trimestre, à un moment où, je vous le rappelle, à un moment où les perspectives de profit restent très optimistes, mais ça c'est avant la publication des résultats du Q1, et toutes ces perspectives-là vont être ajustées en fonction de ce que les entreprises vont nous dévoiler ces prochaines semaines en lien avec le premier trimestre et leurs perspectives, à un moment où, en termes de valorisation, je vous montre ici le PE Chiller ou encore le Price to Sales, le marché a rejeté sous ses records de 2021. Pour le PE Chiller, on s'en est approché. Donc déjà, le marché a reculé. Il est moins cher, même s'il reste quand même assez cher. Ici, vous êtes sur 10 ans. Et pour le Price to Sales aussi sur 10 ans. Bon, effectivement, le marché recule car il avait atteint des niveaux de valo qui étaient ceux du record de 2021. Ce fut à l'époque le point de départ du bear market. Mais il y avait une lutte contre l'inflation à l'époque. Ça a pris du temps. C'était l'envolée des taux d'intérêt. Là, attention, on ne peut pas comparer. Les taux d'intérêt drop. Donc tout ça est très important, il va permettre d'en savoir plus, et globalement, au stade actuel, les analystes maintiennent des prévisions optimistes. 6009, il ne faut peut-être pas exagérer, moi j'estime toujours que les 6500 points du S&P 500 sont négociables pour la fin de l'année. L'année est encore longue, il reste 3 trimestres. L'année est encore longue, il reste 3 trimestre. Alors, tout de suite, une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. La liquidité mondiale, qui fait un nouveau record historique, pourrait bientôt venir se déverser et permettre un rebond des actifs risqués en bourse. Et maintenant, parlons de cette fameuse liquidité mondiale, chers amis, qui constitue, et j'en suis ébloui, donc j'en mets mes lunettes de soleil, qui constitue la lueur d'espoir principale de rebond technique de printemps pour les actifs risqués en bourse, avec une reprise de la tendance haussière de la liquidité nette aux États-Unis et une liquidité mondiale qui fait de nouveaux records historiques. Je vous en parle depuis plusieurs semaines dans mes vidéos. Cette corrélation positive avec un décalage temporel entre la liquidité mondiale, c'est-à-dire l'addition des offres monétaires des différents pays, selon l'agrégat M2 et les actifs risqués en bourse. La corrélation est quand même magnifique entre cette liquidité mondiale et le S&P 500. Elle est magnifique entre cette liquidité mondiale et le marché des crypto-monnaies, le cours du Bitcoin en particulier. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a un fort décalage temporel pour que cette liquidité mondiale vienne se déverser. Et donc, bonne nouvelle, la liquidité mondiale. Alors ici, je lui applique un décalage de 75 jours. C'est pour ça que vous la voyez dans le futur. Il y a un débat, 100 jours de décalage, 70, 45, il y a une moyenne de 80. Moi, je mets 75 parce que je trouve que ça colle bien au cycle Bitcoin actuel. Vous avez ici un graphique qui superpose en bleu le S&P 500, les bougies japonaises du cours du Bitcoin et en orange cette fameuse liquidité mondiale, qui est donc l'addition de l'offre monétaire M2 des différents pays, des principales économies, en particulier les États-Unis, la Chine, l'Union Européenne, le Japon, etc., avec un rôle bien sûr du dollar américain. La liquidité mondiale fait un nouveau record historique et tout ce rebond, en fait, là je suis en décalage de 75 jours. Donc je vous remontre ici, en fait, la liquidité mondiale, elle rebondit depuis début janvier. Mais il faut 2 à 3 mois pour que ça se déverse sur les actifs risqués en bourse. En tout cas, alors, il faut une raison pour ça. En tout cas, elle est disponible et à la moindre bonne nouvelle fondamentale ou moins mauvaise nouvelle, on va dire, elle sera à même de se déverser sur les actifs risqués et de permettre au moins un rebond technique. Donc oui, elle fait un nouveau record historique. Oui, si l'on en croit le décalage de 75 jours, on peut avoir un rebond en avril. Si c'est davantage un décalage de 100 jours, eh bien ce serait un rebond au mois de mai. Bon, en tout cas, ça fait partie des lueurs d'espoir. Et puis, là, je ne vous parle pas de la liquidité mondiale, mais je vous montre ici sous vos yeux en bleu la liquidité nette aux États-Unis, qui est la réelle offre monétaire aux États-Unis, en tenant compte aussi de l'évolution du bilan de la Fed et des opérations de la Fed. Vous savez que depuis le début du mois d'avril, la Fed a ralenti la vitesse de baisse de son bilan, et regardez, ça repart à la hausse. La liquidité nette aux States repart en hausse, et ça fait vraiment partie des lueurs d'espoir pour envisager une reprise ce printemps. Alors, vous avez donc cette semaine la mise à jour de l'inflation CPI aux États-Unis le 10 avril. Alors, on rappelle que la guerre commerciale concerne avant tout les produits manufacturés, que les services ne sont pas concernés. Oui, je vous confirme que les indicateurs avancés sont optimistes pour la désinflation. Même d'ailleurs, la Fed dit que s'il y a un rebond en version mensuelle de l'inflation, cela ne serait que transitoire. L'inflation CPI aux États-Unis, je vous rappelle qu'elle est actuellement à 2,8 en version nominale et à 3,1 en version sous-jacente. Pour ce chiffre du 10 avril, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland envisage une baisse de 3,1 à 2,99 pour l'inflation sous-jacente et de 2,8 à 2,49 pour l'inflation nominale. Du côté des indicateurs d'inflation temps réel, donc j'ai tout ici, tout repris dans mon tableau. Je fais comme ça, j'enlève la caméra. Si ça vous intéresse, faites une petite capture d'écran, faites une pause, faites une capture d'écran pour avoir le contenu analytique que j'ai mis, mais je le mets ici à l'oral. Oui, malgré la guerre commerciale, alors les tarifs douaniers, ok, sont implémentés. Est-ce qu'il va y avoir des accords commerciaux ou pas? Bon, est-ce qu'il va y avoir des augmentations de prix aux États-Unis ou pas, sachant que c'est illégal, hein, l'organisme qui gère les prix aux États-Unis l'a bien répété, l'organisme fédéral. Donc, bon, et quand bien même il y aurait des augmentations de prix, la Fed les juge transitoires. En tout cas, les indicateurs avancés de l'inflation restent, oui, je sais, optimistes. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez l'inflation temps réel aux États-Unis selon Trueflation, elle continue de s'effondrer. Je vous rappelle que la guerre commerciale ne concerne pas les services. Regardez l'inflation des services, elle fait un nouveau plus bas à 1,94. Il y a une dynamique structurelle de désinflation dans le secteur des services. une dynamique structurelle de désinflation du côté de l'inflation core, en grande partie grâce à la désinflation immobilière, mais pas que, dans un certain nombre de services. Et d'ailleurs, si vous regardez les anticipations d'inflation dans la composante inflation des ISM, oui, dans le secteur manufacturier, il y a un vrai stress, mais je vous rappelle, il y a un vrai pump, il y a un vrai rebond des anticipations d'inflation dans le secteur manufacturier, ça rappelle le Covid, mais attention, je vous rappelle que l'industrie, c'est moins de 20% du PIB US, ce sont les produits manufacturiers, ce sont des anticipations de stress en lien avec la guerre commerciale, il n'y a encore rien de concret. Par contre, regardez du côté des anticipations dans le secteur des services, nous sommes parfaitement revenus au monde d'avant et il n'y a pas d'inquiétude des entreprises dans le secteur du service concernant les prix des services. Et les services, c'est 65 à 70% du calcul des taux d'inflation. Donc quand bien même la guerre commerciale entraînerait une augmentation du prix des biens manufacturés, cela n'agirait finalement qu'à la marge, il n'y aura pas de vague inflationniste comme le Covid. D'ailleurs, la désinflation est bien engagée. Et pour le moment, elle se poursuit. Et là, vous avez sous les yeux des métriques d'inflation temps réel. Bon, alors, est-ce que nous pouvons être optimistes pour les chiffres de ce 10 avril? En tout cas, les indicateurs avancés le suggèrent. D'ailleurs, le marché se projette désormais sur 1, 2, 3, 4 baisses de taux de la part de la Fed d'ici la fin de l'année, en grande partie du fait de l'augmentation de la probabilité d'une récession. Je mets mes lunettes de soleil quand je parle de récession parce que ça pique, ça éblouit, cette probabilité d'une récession qui aurait atteint 50%. Bon, tout ça va très vite, vous savez. La guerre commerciale, les tarifs réciproques sont connus, mais les perspectives, c'est de trouver des accords commerciaux. Et puis la Fed, le fameux Fed put, va bientôt être activé. Et comme je vous l'ai montré dans la partie d'avant, il y a énormément de liquidités disponibles qui ne demandent qu'à se déverser. Mais pour ça, il faut un start. Bon. Donc, effectivement, une confirmation de la désinflation donnerait un peu d'air à la Fed. Alors, bien sûr, n'oubliez pas l'emploi. Vous avez pris connaissance, comme moi, vendredi, des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Vous connaissez la situation du marché du travail US. La Fed, je pense, moi, soit le 18 juin, soit le 30 juillet, réengagera la baisse du taux d'intérêt de ces fonds fédéraux. Et enfin, je termine, comme d'habitude, par un point global, analyse technique sentiment sur l'indice S&P 500. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, pour commencer, je trouvais cette infographie assez intéressante. Et vous savez, Donald Trump, le président Trump, aime bien se comparer à ses prédécesseurs. Déjà, ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'en termes d'impact sur le S&P 500 des deux présidences, bon, quoi qu'il gagne, qui est perdant. Après, Donald Trump ne cesse de répéter qu'il est très confiant dans la reprise à venir du S&P 500. La question, c'est quand est-ce que sera activé le fameux Trump put, pour reprendre l'expression du Fed put. Quand est-ce que la chute des marchés financiers fera que Trump infléchira son discours? Là, lui se projette, semble-t-il, à beaucoup plus long terme. Alors, sur le plan technique, plusieurs choses à vous montrer. Tout d'abord, nous sommes sur 6 semaines consécutives avec un pourcentage de vendeurs chez les traders particuliers, selon l'Association américaine des investisseurs particuliers, qui est au niveau de la crise financière de 2008. Bon, 6 semaines consécutives, le réservoir des vendeurs est archi rempli, il est à ras-bord. Ce réservoir des vendeurs ne peut que se vider, mais pour se vider, il faut une bonne nouvelle, il faut quelque chose, une lueur d'espoir fondamentale. Et là, cela permettrait un rebond technique. Pour certains, un bear market rally, mais au moins un rebond technique. D'un point de vue du positionnement quantitatif, nous arrivons en grosse zone de support. Le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours arrive sur cette grosse zone support, on y est presque. À chaque fois ici, ce fut des creux majeurs, fin octobre 2023, mars 2022, octobre 2022, ce fut des creux majeurs. Nous y sommes presque dans cette zone où, d'un point de vue quantitatif, nous pourrions attendre une reprise. Pour le S&P 500, moi, je reste sur mon scénario d'une vague 4. Je reste sur mon scénario d'une vague 4, ici, qui retrace entre 38,2 et 50%, entre 38,2 et 50% de la grande vague 3. Et donc, moi, mon scénario reste le même, si vous voulez, et que le marché peut travailler ici un peu le cumo. Mais voilà, pour moi, tant que le marché se maintient ici entre les 5150 et les 5004, eh bien, nous pouvons avoir une reprise. Donc voilà, moi je pense que nous sommes toujours dans cette vague 4, que le marché est en train de construire, que le marché est en train de prolonger. Qui dit vague 4 dit qu'il manque une vague 5 d'ici la fin de l'année. Et moi je pense toujours que cette vague 5 aura lieu d'ici la fin de l'année, en lien notamment avec des perspectives fiscales qui vont devenir beaucoup plus intéressantes aux États-Unis. Et c'était dans les promesses de campagne. Et bien sûr, des accords commerciaux qui ne vont pas tarder à arriver. Donc les amis, y a-t-il des perspectives de rebond technique ce printemps? Oui, oui et oui, et archi oui. La liquidité, l'aspect fondamental prospectif, le Fed put, les accords commerciaux, les lueurs d'espoir ne manquent pas. Maintenant, il faut une pattern technique court terme pour valider cela, et une diminution de la volatilité, et je pense que cela peut arriver dans le courant de ce mois d'avril. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté.